à voix nue. Cette semaine, Sylvain Bourmont s'entretient avec Pierre Birnbaum. Ce soir, une adolescence parisienne.
Après une première émission consacrée à la préhistoire et au tout début de l'histoire, qui est aussi ce que vous appeliez, Pierre Birnbaum, la fin de partie pour l'État français, 1940, cette leçon de Vichy, pour reprendre le titre de votre dernier livre publié en 2019, livre dans lequel vous revenez sur cette expérience singulière qui s'éclaire à la lumière de vos travaux sur l'État. Après donc ce moment, cette entrée dans la vie marquée par des circonstances exceptionnelles, vos parents regagnent Paris, regagnent le quartier dans lequel ils habitaient avant-guerre, dans les années 30, le Marais. Ils retrouvent leur appartement, leur atelier, mais dans des conditions, j'imagine, un peu différentes, Pierre Birnbaum.
Alors, j'ai pu retrouver les dossiers à la fois d'arianisation en 41 et puis les dossiers par lesquels mon père tente de récupérer son atelier. C'est très bouleversant de trouver les documents eux-mêmes, les procédures, les gens qui se déclarent acheteurs, tout ça est très bouleversant. En effet, ils retrouvent leur atelier, ils retrouvent leur tout petit appartement de deux pièces dans lequel j'ai passé mon enfance. C'est situé à la marge du Marais, c'est vers Arts et Métiers, donc c'est pas ce qu'on appelle le Marais. Ça fait partie de ce que les Juifs appelaient le Pletzel. En effet, il y a beaucoup d'immigrés juifs qui habitent par là. Ce sont des logements très, très simples, sans beaucoup de confort, sans même confort du tout. Nous allions, comme beaucoup à l'époque, prendre nos douches dans les bains publics. Donc c'est un moment où on rentre à Paris. Je me souviens de la découverte du métro à 5 ans, avec des poules et des lapins, je crois, que l'on met sur le balcon, parce que c'est la misère. 1945, 46, c'est la misère. Mais c'est une vie qui se reconstruit très vite, même si c'est peu connu. Renaissent de suite des mouvements antisémites et on entend déjà à nouveau, sinon mort aux juifs, des manifestations antisémites dans les rues de Paris contre le retour des juifs. Ce bruit ne les a jamais quittés finalement. Alors c'est le retour à la vie dite normale. Mes parents travaillent difficilement, durement, jour et nuit. Et en ce qui concerne ma sœur et moi-même, c'est l'école publique, l'école de la République, l'école des Hussards Noirs. Pour ma part, une petite école rue Ferdinand Berthoud, derrière les Arts et Métiers, où je fais ma scolarité, comme tous les petits Français de l'époque. Je suis un gamin des rues, les parents ne sont jamais là, on se bat dans les rues. C'est relativement violent et en même temps des formes de sociabilité que nous avons tous connu dans la prime adolescence. C'est un moment aussi de, quand j'y pense a posteriori, un peu étrange, puisque 3 ans avant ou 4 ans avant mon retour, les petits-enfants juifs ont tous été déportés. Et durant toute ma scolarité, disons, du CP au CE1 ou CM2, je ne sais plus, il n'a jamais été question, jamais, de cette déportation. Il y a des cérémonies, on chante la Marseillaise, mais il n'a jamais été question du tout, jamais.
Il n'y a pas de plaque.
Il n'y a pas de plaque, les plaques ne viendront que dans les années 1990, 95. C'est le silence absolu sur cette histoire, et finalement, je rencontre cette question du silence, qui a fait l'objet d'un livre intéressant de mon ami François Azouvi récemment. François Azouvi pense qu'il n'y avait pas tellement de silence que ça. C'est le thèse de son livre. Je pense que dans les familles juives, en tout cas, il y avait un silence réel, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin de vivre, de se réinstaller dans la vie, de retrouver un sens aux choses, et de ne pas charger, au fond, la conscience ou les valeurs ou des enfants de la Shoah. On ne parle pas de la Shoah, on ne parle pas de la déportation. Et pourtant, mon père a perdu ses 3 sœurs, tous les petits-enfants, tous les cousins, les cousines, les nièces, les neveux. Ma mère a perdu une grande partie de sa famille. Donc, cette Shoah nous a concernés très près aussi. Mais il y a un besoin de vivre, de construire, de donner aux enfants la chance de renaître sans que ça pèse trop sur leurs épaules. Et puis, il y a ce terme de réaffiliation, de résilience, de réaffiliation, qui sont des termes à la mode chez les psychanalystes aujourd'hui. Pour ma part, ma réaffiliation, ça va être l'école de la République et bientôt l'État. Et en effet, j'ai la chance d'être dans une école comme il en existait sous la Troisième République, c'est-à-dire extrêmement sévère, avec des blouses grises, mais avec un sens très poussé de la méritocratie, du travail, du labeur, de l'exigence. J'ai énormément de chances successives dans ma vie. J'ai un instituteur dont le nom est à lui seul bien évocateur de tout cela, des hussards noirs de la République, cher à Mona Ozouf. Mon instituteur s'appelle Monsieur Martinet. Et donc Monsieur Martinet me donne tout un ensemble de cours particuliers, gratuits d'ailleurs, dans un tout petit logement du côté de la rue de Bretagne, avec les bébés qui pleurent. Monsieur Martinet réussit une prouesse, c'est-à-dire il réussit à me faire rentrer en sixième. De nos jours, entrer en sixième, c'est même moins dur que d'avoir le permis de conduire. Pour ma part, l'entrée en sixième, c'est l'examen le plus difficile que j'ai jamais passé de ma vie. Et en effet, à l'époque, l'entrée en sixième était réservée à 1% de la population, sinon 2%, il faudrait voir les statistiques exactes. Mais personne n'allait au collège, personne n'allait au lycée. Et donc j'ai cette chance, je pense que j'étais le seul de la classe à entrer en sixième. Les autres partaient vers le certificat d'études et puis la vie professionnelle à 14 ans. Donc je suis béni des dieux. Bernadette veille sur moi et je rentre au lycée. J'accède ensuite, puisque mes parents changent de quartier, nous allons dans ce qu'on appelle le beau 18e, du côté de l'avenue Junot, la rue Colincourt. Une sorte de mobilité géographique qui suit la mobilité sociale. Et je vais au lycée Jacques Decourt, qui est un lycée extrêmement intéressant, à la marge de différents quartiers, entre les quartiers riches et bourgeois du 9e, même du 17e, qui n'est pas très loin, du 18e, du 19e. Donc on a une population d'enfants très mélangée, à la fois favorisés et au contraire de loubards quasiment, de loubards avec des pistolets, qui ont vraiment des pistolets dans l'école, des vrais pistolets. C'est une époque extrêmement violente, c'est la guerre d'Algérie qui commence en 54, c'est en plein milieu de ma scolarité, les bagarres d'une violence extrême à la porte du lycée, tous les jours, les cassages de gueule. C'est donc une socialisation politique très intense, et dans un moment très intense. C'est Dien Bien Phu, c'est la fin de la guerre d'Indochine. Nous lisons Le Monde tous les jours à la maison, mon père lisait Le Monde, et puis on écoute la radio, je me souviens, comme si c'était aujourd'hui, de la chute de Gabriel, de Dien Bien Phu, de chacun des Fortin, on suit ça à la radio, et puis la guerre d'Algérie, et elle est présente très vite dans les rues de Paris, ce sont les patrouilles de harkis, la mitraillette au poing, que vous rencontrez au coin des rues. Ce sont bientôt les attentats de l'OAS.
Vous forgez une opinion ou...
Je regarde, je suis aux aguets pour reprendre cette expression. Oui. J'écoute la violence, j'ai toujours été bouleversé, captivé, intéressé par ce passage impensable et incompréhensible d'une violence qui a fallu me frapper moi-même. Avec mon ami Michel Tropper, on va écouter les frères Sidos, l'extrême droite, dans des lieux gardés par des gorilles de l'extrême droite. S'ils avaient su qu'on était juifs, ils nous auraient laminés.
Par curiosité pour...
Par fascination de ces folies, de ces utopies, de ces idéologies extrémistes, de ces langages radicaux. Au moment de Budapest et de l'entrée des chars à Budapest. Je me rends au siège du Parti communiste, donc ça en 1956, je suis un jeune garçon. Des foules de milliers de paras sont là, de milliers de militants de droite et d'extrême droite qui veulent détruire et prendre d'assaut le siège du colonel Fabien. les militants communistes déversent de l'huile bouillante depuis le toit. On se croit au Moyen-Âge. Vous voyez, ce sont des scènes qui hantent ma vie et qui, au fond, font preuve de non pas d'un attrait, mais d'une incompréhension et en même temps d'une fascination pour cette violence incompréhensible, pour ces préjugés, pour ce refus de la raison qui se marque par le colonialisme, par les tortures des Algériens, ça va être bientôt la question, Henri Alleg. Toute cette époque est marquée par des folies, Colonel Bijard, Massu, le général Massu, les déclarations, la torture, Audin qui disparaît. Au fond, c'est toute une adolescence marquée par cette violence et par des professeurs qui portent une connaissance de l'histoire absolument incroyable, puisque dans ce lycée tout à fait étonnant, j'ai les meilleurs des professeurs d'histoire, bien sûr tous agrégés d'histoire, mais qui deviendront des collègues. Par exemple, le meilleur spécialiste contemporain de Tocqueville, qui va éditer Tocqueville plus tard chez Gallimard, Jardin, est mon professeur d'histoire, et je serai son collègue un peu plus tard à Sciences Po. J'ai comme professeur d'histoire Jean Babi, qui sera professeur à Sciences Po également un peu plus tard, et qui est membre du Parti communiste, membre du Comité central, et produit tout un ensemble d'ouvrages sur le communisme. Donc il y a des grands professeurs qui vous transmettent au fond la grande histoire, qui vous la font vivre dans différentes matières. J'ai des réfugiés espagnols, j'ai un professeur dont tout le monde se souvient, comme mon ami Chazelle ou Boudon, s'il était encore vivant, il est décédé malheureusement, mon collègue Raymond Boudon, professeur de français, Louis Francis, qui était professeur prix Théophraste Renaudot. Donc on a vraiment de grands professeurs qui nous traitent avec une exigence dont on n'a plus l'idée aujourd'hui, enfin avec un respect, une exigence.
Et vous vous rappelez de ce que vous aviez envie de faire plus tard? Est-ce que vous en aviez une idée?
Non, aucune. C'est la perplexité absolue. Je suis un enfant perdu du point de vue de son destin personnel. Je n'ai absolument aucune idée. Ma seule idée, c'est d'essayer de passer dans la classe au-dessus, car c'est extrêmement difficile à l'époque. On vous exclut tout de suite. Pour peu que vous n'ayez pas la moyenne dans toutes les notes, vous êtes éliminé du lycée. Mon seul cauchemar était d'essayer de passer d'une classe à l'autre, et j'avais beaucoup de mal. Je confesse que je n'étais pas un élève très très brillant et que j'avais une scolarité médiocre. Mais enfin, j'ai réussi, comme tout le monde, à avoir mes deux bacs.
Deux bacs et vous entrez directement à Sciences Po, donc vous ne devez pas être un mauvais élève quand même, Pierre Birnbaum.
Alors c'est un paradoxe là aussi, je recommence, j'ai eu beaucoup de chance. C'est à nouveau les hasards de l'histoire qui m'orientent. J'ai un très bon ami dont le nom est devenu très célèbre dans le milieu du droit, qui est Michel Tropper. Nous sommes amis depuis très longtemps et Michel est également fils d'émigrés et il n'est pas socialisé non plus, il ne connaît pas les règles du jeu, il ne sait pas où est-ce qu'il faut faire. Et donc un jour, il passe son bac, et un jour nous sommes en bas de la Tour Saint-Jacques, on étale tous les documents des différentes universités ou instituts où on se propose éventuellement d'aller. On ne sait rien de rien. On ne sait même pas que l'École Normale Supérieure existe, on ne sait pas que Sciences Po existe, on ne sait rien. Et donc on ouvre un des formulaires, et c'est un formulaire de Sciences Po de Paris. Et Michel me dit, ça a l'air pas mal ça, pourquoi pas? Et donc Michel se présente et puis il réussit, il rentre à Sciences Po. Et puis moi j'arrive au bac 2 ans après et je dis à Michel, mais moi qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, tu fais Sciences Po. Et moi je savais pas ce qu'il fallait faire pour aller à Sciences Po. À l'époque, vous le savez, on entrait à Sciences Po si on avait une mention très bien, et il y en avait très très peu à l'époque, ou bien après une préparation à Sciences Po, d'Hippocagne, de Cagne. Donc Michel me dit, tu lis 3 livres, tu lis Les bourgeois conquérants de Morazet, tu lis Du pouvoir de Jouvenel, et tu en lis un 3e dont j'ai oublié le titre. Alors j'ai lu 3 livres, et puis je suis rentré à Sciences Po au mois de septembre, tout de suite, après le bac. Beaucoup de chance à nouveau, je suis pas rentré dans un très bon rang non plus, il faut pas trop le dire, mais ouais, c'est la réalité. Et là, en effet, c'est l'émerveillement. C'est une institution, quoi que vous puissiez en penser, admirable de tout point de vue, par l'exigence qu'elle impose, par l'ouverture. C'est une institution fabuleuse, où je rencontre en effet ceux qui vont me fasciner toute ma vie, à savoir les hauts fonctionnaires, puisque je choisis très vite la section de service public, qui est la section de l'État, et donc je rencontre immédiatement des hauts fonctionnaires d'une classe intellectuelle, d'une exigence morale, d'une compétence absolument inestimable, sans même me dire que peut-être ces hauts fonctionnaires ont été mêlés ou pas à Vichy. Et j'y pense simplement aujourd'hui, puisqu'ils avaient l'âge d'avoir traversé Vichy quelques années auparavant. Mais en tout cas, cette question ne m'effleure pas.
Et vous rencontrez le droit administratif aussi.
Et je rencontre Guy Brébant, par exemple, qui avait fait certainement du droit administratif, longue veille les Brébants, les grands arrêts de jurisprudence administrative, qui est le Hegel des administrativistes, qui est le recueil aussi beau dans la logique et de l'argumentation que des mathématiques pures, d'un jeu d'échecs, une symphonie de Beethoven. Donc on entre là-dedans, on découvre un monde, une logique, le droit de l'État, le droit administratif, et beaucoup de chance à nouveau de rencontrer Guy Brébant, qui est mon maître de conférence, par chance à nouveau, auquel je resterai attaché toute ma vie, et je lui dirai beaucoup plus tard à quel point je lui suis redevable d'avoir rencontré à travers lui l'État, puisque lui-même sera un peu plus tard, vous le savez, membre du cabinet d'un ministre communiste en 1981, il sera directeur du cabinet, c'est-à-dire responsable administratif. Donc j'ai cette chance d'entrer dans cette voie royale du service public, de la puissance publique, de l'espace public, de l'apprentissage, au fond, de tous ces termes qui peuvent paraître dérisoires, vu une sociologie critique, mais qui pour moi ne le sont pas, et qui ne le restent toujours pas, enfin, ou le restent toujours plutôt. Et ce qui explique à quel point j'ai beaucoup de mal à entrer dans ce que l'on nomme la sociologie critique du politique.
Mais vous les rencontrez, ça, à un moment, parce que j'aimerais y venir aussi, où un régime, la 4e République, disparaît, où une forme de coup d'État fait naître la 5e République. On est dans ces années, 1958, ces années de la fin.
C'est-à-dire que je rentre à Sciences Po au moment où on se dirige vers la fin de la guerre d'Algérie, et surtout où naît ce qu'on va appeler, et sur le sujet sur lequel je vais beaucoup travailler, publie mon premier livre, Les sommets de l'État, on entre dans ce qu'on va appeler la République des hauts fonctionnaires. Au fond, c'est une sorte de coïncidence à nouveau, où c'est intéressant de voir que l'histoire va me fournir matière à mon travail, quoi, finalement.
L'actualité la plus brûlante,
sans m'en rendre compte. Au fond, mon travail sur les hauts fonctionnaires coïncide avec la prise du pouvoir par les hauts fonctionnaires, avec les premières générations formées par l'ENA en 1945, et qui prennent le pouvoir donc dans les années 55-58, au moment où moi-même j'entre dans cette espèce de réflexion sur l'espace public, la haute fonction publique. Il y a là une coïncidence qui n'est pas innocente. Au fond, on peut essayer de réfléchir sur la manière dont les universitaires, quels qu'ils soient, imaginent des sujets en fonction du contexte dans lequel ils écrivent, dans lequel ils vivent simplement, dans leur propre contexte socio-historique. Finalement, et là encore, je vais m'éloigner de toute cette sociologie critique qui néglige cette dimension, le caractère exceptionnel d'un moment exceptionnel, d'une société exceptionnelle. Donc, c'est là, au fond, ce qui va conduire à mon propre travail sur la sociologie du personnel politique, quitte à ce que je me sente obligé de mentionner qu'entre les deux, il y a une étape cruciale pour ma part, qui est le refus d'entrer à l'ENA, ou le refus, peut-être par peur, de rater le concours. Mais c'est pas certain, puisque mes camarades de mon écurie, comme on disait à l'époque, sont tous entrés, et que moi, j'ai renoncé au bout de 15 jours, 3 semaines. Mais surtout, donc, j'ai eu la chance, dans ce moment d'entre-deux, où, après le droit, la sociologie, Sciences Po, je ne savais plus où aller, d'être à accepté, pour des raisons que je ne m'explique pas complètement, mais là, beaucoup de chance à nouveau, c'est le terme qui va revenir tout le temps, par Raymond Aron, et c'est au fond là où la vie bascule. Raymond Aron est le grand professeur, c'est le seul professeur de sociologie, et l'un des seuls professeurs même de sociologie de tout Paris. Il y a 3 professeurs de sociologie pour toutes les universités parisiennes, pour tout Paris. Peut-être 4. Donc Raymond Aron m'accepte en doctorat de 3e cycle, comme on le disait, qui là encore, par chance, vient juste d'être créé 2 ou 3 ans avant. Il n'y avait pas de doctorat de 3e cycle.
D'autant que tout ça est très rapide. Les études à Sciences Po, ça ne dure que 3 ans.
Ça ne dure que 3 ans.
Vous vous trouvez dans une situation de pré-professionnel, on pourrait dire, de chercheur.
Tout à fait, à 22 ans. À 22 ans, donc j'entre en thèse de 3e cycle. Ça ne serait pas possible aujourd'hui. Et ça n'était pas vraiment à l'époque non plus, puisqu'il fallait d'abord passer une agrégation pour la plupart, donc c'était plutôt 24-25 ans. Et Aron me prend comme thésard, simplement, et j'ai eu de la chance qu'il m'accepte, j'ai eu de la chance de fréquenter son séminaire, et j'ai eu de la chance d'accéder au fond à sa propre vision très pluraliste du monde, du politique, son travail sur les élites, qui date de 1955, 58, 62. Il publie les textes dans les archives européennes de sociologie, dans la revue française des sciences politiques. Il publie 16 articles sur les élites, le recrutement des élites, sur la différence entre le pouvoir, l'autorité et la force. Il fait son cours sur Pareto, sur les théoriciens élitistes italiens comme Mosca. Au fond, j'ai beaucoup de chance de tomber à ce moment-là. Et c'est ce contexte particulier aux antithèses du contexte marxiste qui domine l'université de l'époque, qui le domine totalement. Le marxisme est omniprésent, omnipotent à l'université et sur la scène intellectuelle. Or, Aron ouvre à une sociologie du politique en tant que telle. Il prend au sérieux le politique, l'élite politique, le pouvoir politique. La différence entre le pouvoir politique, il transmet l'œuvre de Max Weber en France. Il introduit depuis 1932 son premier petit livre.
Une partie des morceaux qu'il choisit.
N'entrons pas dans cette discussion.
Vous le savez, c'est vous qui l'avez appris.
Vous êtes adorable. Mais en tout cas, il nous fait comprendre qu'en dehors de Marx, il y a Max Weber. Et que Max Weber, si vous ouvrez Économie et politique, la première phrase de Max Weber dit « La sociologie commence avec l'action ». Tant qu'on n'étudie pas l'action, on n'est pas encore entré dans la sociologie. C'est-à-dire, si vous n'étudiez que la position, si vous n'étudiez que la structure, et c'était ce qui est dominant à l'époque dans le marxisme althusserien, le marxisme de Poulantzas, le marxisme dominant à l'époque, ou bien le structuralisme, Lévi-Strauss, c'est la grande époque du structuro-fonctionnalisme. Or, ce que dit Weber, c'est que on ne commence à comprendre la société que lorsqu'on étudie l'action des acteurs portés par leurs valeurs. Max Weber, c'est le relationnement entre les valeurs et l'action par lesquelles un acteur met en place une stratégie, une volonté. Le marxisme est exactement, à la française, tourne exactement le dos à cette attention portée aux acteurs qui est au cœur de la sociologie de Raymond Aron, inspirée par Tocqueville, inspirée par la recherche de ce que veulent les hommes, comment les hommes vivent, comment les hommes construisent leur histoire.
Donc à aucun moment vous n'avez pris la décision de devenir chercheur, professeur, universitaire. Les choses se sont produites.
Elles se sont emboîtées par miracle. Et le terme qui va revenir encore, c'est la chance. J'avance dans le... sans très bien savoir où je vais. J'habite une petite chambre d'étudiant sous les toits, sans eau chaude, sans chauffage. Et j'écris mon premier travail qui porte un thème très aronien sur la structure du pouvoir aux États-Unis, avec néanmoins une démarche qui n'est pas totalement aronienne, qui est une démarche quantitative. Il y a à la fois une étude des valeurs des acteurs, des idéologies au XIXe siècle, mais en même temps, une réflexion sur la distribution de la richesse, ce que Naron ne faisait pas dans son travail, sur la mobilité sociale. Donc il y a un travail quantitatif pour mener, pour expliquer le type d'accès aux élites. Et je travaille énormément comme un fou, parce que je n'ai pas d'armes pour entrer à l'université. Je ne suis pas agrégé, je ne suis pas normalien. Donc je rédige un petit livre et qui va, par chance, être considéré comme étant de bonne qualité. Et Aaron, recevant ma thèse, par peur d'une familiarité ou d'une ouverture, l'a fait lire à Bourdieu, qui ne m'aimait pas beaucoup, puisque je faisais partie du Centre de sociologie européenne, que Bourdieu dirigeait, sous la houlette très lointaine de Aaron. Et Bourdieu considère que c'est un bon travail. J'ai eu beaucoup de chance, là encore, qu'il veuille bien le considérer comme un bon travail. Et cette thèse est soutenue. Et Aaron me propose immédiatement, c'est beaucoup de chance, un poste de collaborateur technique au CNRS. Et tenez-vous bien, je deviens donc le nègre de Raymond Aaron, qui prépare Paix et guerre entre les nations, mais aussi celui de Pierre Bourdieu. Et je fais des fiches pour Pierre Bourdieu, des fiches d'anthropologie. Je lis pour lui des cinquantaines de livres d'anthropologie, des Indiens, de toutes sortes de fortesses, sur les Esquimaux. Je ne sais plus quel ouvrage il préparait à l'époque. Mais enfin, je lui fournis matière à préparer ses ouvrages. Et au bout d'un an, très vite, nous sommes pratiquement la même année, au bout de quelques mois même, thèse soutenue, alors que beaucoup de chance encore, alors que nombre de mes amis normaliens et agrégés n'ont pas de poste à l'université, on m'en offre deux, un poste d'assistant à Lille avec le plus grand des plus grands qui est François Isambert à l'époque, sociologie religieuse, que j'accepte, et puis finalement François Bourricot, que je n'avais jamais rencontré. Grande chance, j'ai déposé un exemplaire de ma thèse à 6h du matin chez une vendeuse de chaussures qui ouvrait sa boutique en face de son domicile. Et 3 mois après, il m'envoie une lettre me proposant un poste de maître de conférence à Bordeaux. La chance joue un rôle important dans les destinées humaines, loin de toute forme de déterminisme à nouveau.
C'est de Bordeaux que nous repartirons pour le troisième volet de cette série à voix nue. Merci Pierre Birnbaum.
Merci infiniment.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Sylvain Bourmont avec Pierre Birnbaum. À voix nue. Réalisation Christine Robert, prise de son Julien Girard, attaché de production Daphné Abraham, coordination Sandrine Trainer. Cette émission se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.